Bonjour à tous. Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, cette année, les États généraux de la poésie, pour leur conclusion, vont se concentrer sur la thématique de l'édition du poème. Et nous allons commencer ces tables rondes par une réflexion sur la poésie pour la jeunesse, puisque cette année, le marché de la poésie a décidé d'intensifier son action pour la poésie en direction de la jeunesse. Et donc, je vais laisser la parole immédiatement à Emmanuelle Leroyer, qui va vous présenter ses amis qui sont autour d'elle, et je lui laisse diriger la rencontre. Merci Emmanuelle, c'est à toi.
Merci beaucoup Vincent. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, alors on va essayer de ne rien casser, d'être sage. Non. Oui, pour rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, avant justement de réfléchir sur cette édition pour la jeunesse, je tenais tout particulièrement à remercier Vincent Gimeneau et Mateia Bijac-Petit, ainsi que ses collaboratrices pour la programmation qu'elles font dans le pavillon Poésie Action Jeunesse, qui est juste à côté du stand, à côté du marché de la poésie. Vous pourrez à loisir y aller pendant tout le temps du salon. Donc, ces collaboratrices qui sont Catel Tison-Desmat et Anne-Françoise Cabanis. Voilà, je les remercie vraiment vivement pour donner une place importante à la poésie jeunesse au sein de l'édition tout court et au sein de l'édition de poésie et au sein de ce marché, puisque la poésie jeunesse, elle le mérite vraiment qu'on s'y attarde fortement. Et justement, pour traiter de ces états généraux, pour voir un petit peu ce qu'il en est de l'état de la poésie jeunesse, Vincent Gimeneau m'a nommée températrice. Alors, j'aime beaucoup ce mot. On va prendre, on va prendre la température de l'édition jeunesse. Et je crois savoir qu'elle est plutôt bonne, plutôt clémente, voire rayonnante. Et voilà une bonne nouvelle. Il faut dire aussi que ce qui précède vraiment ce bon état de l'édition jeunesse, c'est aussi toutes les actions qui ont pu être menées, à la fois les actions des éditeurs, et nous allons en parler avec cinq éminents représentants et représentantes, mais aussi par toute l'action culturelle qui se développe depuis de nombreuses années. Je pense notamment au Printemps des Poètes, au Centre de création pour l'enfance qui fait une fête de la poésie chaque année en février, ou d'autres initiatives telles que le prix des lecteurs Lire et faire lire, qui fait une sélection chaque année d'ouvrages de poésie à lire aux enfants. Donc voilà, on peut vraiment se réjouir de ce bon état et aussi remercier tous les éditeurs qui œuvrent depuis longtemps pour nous proposer des ouvrages. Et vraiment essayer de rendre peut-être un petit peu plus visible cette niche éditoriale. Parce que quand on dit niche éditoriale, c'est vraiment dans le secteur du livre de poésie en général. On voit bien que c'est vraiment un petit segment. Au niveau aussi de la littérature jeunesse en général. Et pourtant, un article de Livre Hebdo nous indiquait quand même qu'il y avait une bonne santé dans ce secteur, puisque il faut savoir qu'un livre sur cinq vendu est un livre jeunesse, et que en vous interrogeant chacun dans cet article, on s'aperçoit quand même que c'est un secteur qui trouve son lectorat. Donc on va plus précisément avec cinq invités vraiment essayer de voir ce qui fait la spécificité du secteur et puis essayer de faire en sorte qu'on la voit un petit peu plus cette niche éditoriale, parce que quand on dit niche, on dit quelque chose peut-être d'un endroit un peu restreint, un peu caché. Et je crois qu'il faut peut-être encore redoubler d'efforts pour que cet endroit, eh bien, il soit vraiment au sein, qu'il soit encore plus visible, peut-être encore plus essentiel au sein de l'édition de poésie, au sein de la littérature jeunesse, puis tout simplement au sein de nos vies, puisqu'on sait quand même que ce poème « Rencontrer enfant », eh bien, on va le garder peut-être toute la vie. Et qu'adulte, eh bien, on ira peut-être se ressourcer au sein de cette petite niche. Voilà, mais j'ai assez parlé. Maintenant, place à nos cinq invités qui représentent vraiment l'édition jeunesse, la poésie jeunesse dans tous ses aspects. Du point de vue éditorial, avec donc Alain Serre, qui est poète et fondateur des éditions incontournables en littérature jeunesse et en poésie jeunesse, les éditions Rue du Monde, qui fêteront bientôt leurs 30 ans, je crois. David Dumortier, qui est poète depuis poète pour la jeunesse depuis toujours, depuis le début. Depuis le début et qui donc publie chez beaucoup d'éditeurs, mais beaucoup d'éditeurs ici présents, à savoir chez Rue du Monde et en premier lieu chez Chêne avec La Clarisse et Mehdi Medurougelève qui t'ont peut-être un peu lancé, on verra. Beaucoup. Chêne éditeur et la collection Poèmes pour grandir. Donc, qui est représentée par Elsa Palo, qui est co-directrice des éditions Chêne et directrice de cette collection Poèmes pour grandir, qui a pris la suite donc, de Martine Mélinette pour faire grandir cette collection qui en est à son...
C'est les 40 ans cette année.
C'est les 40 ans, voilà. Il y a toujours un anniversaire. Alors ça, c'est très important pour les enfants, de fêter les anniversaires. Donc, bon anniversaire. Rascal, qui est aussi très lié aux éditions Chêne, puisque il est dessinateur et illustrateur pour beaucoup d'albums en littérature jeunesse, notamment à l'école des loisirs. Enfin, il a beaucoup publié et il fait régulièrement des compagnonnages avec des poètes. Et donc, il a publié chez Chêne deux recueils que l'on montrera tout à l'heure avec, dans la collection Poèmes pour grandir et aussi dans hors collection avec un poète dit adulte. vous nous en direz plus. Et finir, mais nous ne faisons que commencer, Muriel Zach, qui représente, qui est alors autrice, éditrice, journaliste, mais quand même poète, il faut le dire. Donc aux éditions Bruno Doucet et qui a créé aux éditions Bruno Doucet une collection pour la jeunesse, deux collections, pardon, Poésie idéale et Poésie histoire. Voilà, donc nous allons aborder avec chacun d'entre vous cette conversation autour de l'état, de la poésie jeunesse. Et puis... j'ai envie de vraiment d'entamer cette conversation tout de suite avec toi, Alain. Voilà, ça t'apprendra à être le dernier arrivé. puisque tu as quand même été précurseur, on va dire, dans le secteur pour avoir mis la poésie au cœur de ton projet éditorial tout de suite. dans le secteur de l'album illustré. Et voilà, je voulais vraiment te questionner sur cette spécificité de la poésie. Je me souviens d'un entretien que j'avais mené avec ma complice à l'époque, Célia Galis. On t'avait interrogé sur le fait d'écrire pour la jeunesse. Et tu nous avais dit cette jolie phrase, « Je n'écris pas pour la jeunesse, mais je m'adresse aux enfants. » Et c'était une littérature à hauteur d'enfant. Et je me suis dit que pour publier les autres poètes, pour fabriquer des livres d'enfants, est-ce que tu avais le même credo ?
Oui, bonjour. Merci d'être là avec cette canicule naissante, parce qu'on n'a pas tout vu. Précurseur, d'abord, je veux dire qu'il y a tellement de gens qui ont fait de belles choses en poésie largement avant moi et qui m'ont donné envie, inspiré. Quand j'ai commencé, quittant mon Pays basque natal, à devenir jeune enseignant, je me suis régalé des réflexions, des travaux de, je parle Alain Bosquet, des tas d'autres qui m'ont fondé, vraiment. Hein. Donc il y a eu toujours un peu une dominante, je dirais, surtout depuis le cœur du XXe siècle, hein, cette présence de l'enfance, cette préoccupation de l'enfance. Alors c'est vrai que nous, on a mis un peu le pied dans quelque chose d'autre. On n'a pas été les premiers non plus, mais on l'a fait de manière significative avec la place de l'image. Hein. Ce sont des albums très illustrés. Et le défi, chez Chêne, on connaît bien ce défi, c'est comment faire en sorte que des images cohabitent avec des textes sans que l'un ni l'autre se dévore, se tue. Et en quoi ces images vont être un tremplin pour que le gamin, le jeune lecteur, seul ou avec l'adulte, cherche lui aussi ces images. En quoi cette présence d'images n'est pas un obstacle à cette recherche. Ce sont des vrais défis qui nous régalent tous les jours quand on conçoit des bouquins. Hein. Par exemple, on a fait un livre, nous, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Liberté. Merci, David. Qui s'appelle Liberté. Alors, bon, le fameux texte de Paul Éluard, je voulais le faire revivre d'une manière particulière pour les 80 ans de la libération, d'abord de Paris, puis du pays, et surtout montrer aux enfants comment ce texte de résistance, et d'amour aussi, hein, c'est sous-jacent, c'est quelque chose d'intemporel. Il est d'une grande modernité sur les problématiques de la liberté aujourd'hui. Et pour dire aux enfants que cette liberté qui se dit plutôt au singulier, bien qu'elle comprenne beaucoup de libertés qui s'empilent avec un S à l'intérieur de ce mot-là, se décline dans 10 000 pensées, 10 000 ressentis, 10 000 manières de l'illustrer. Et donc, j'ai demandé à une quinzaine d'illustrateurs du monde d'illustrer chacun une strophe de ce fameux poème « Liberté ». Et on a donc un panorama de feeling tellement différent sur ces vers de Paul Éluard 80 ans après. Hein. Ça ressemble quelque part à ce que j'aime, c'est que la présence de l'image soit un tremplin. Alors parfois, dans ce livre, des tremplins contradictoires. Hein. On va frôler l'abstraction, on va être dans du concret. Voilà, et peut-être qu'il y aurait un jeu, on aime beaucoup le jeu dans le domaine de la poésie jeunesse, il y aurait un jeu qui consisterait à demander à des enfants qui ne connaissent pas le poème d'Éluard de reconstituer des strophes en leur donnant le principe, j'écris ton nom, hein, voilà, et à partir des images uniquement, réécrire des vers de liberté à partir des images, voilà. Les livres que nous faisons, les uns et les autres, vraiment, ce sont, je crois que c'est du grain à moudre pur que l'on offre aux gamins pour qu'ils mettent les mains dedans, qu'ils fassent leurs pâtes, qu'ils fassent leur pain et qu'ils le savourent. Voilà, c'est comme ça, c'est peut-être en ça que c'est peut-être l'identité du livre jeunesse, c'est que c'est le début de quelque chose. C'est le début concret et beaucoup d'enseignants, d'animateurs, de bibliothécaires, s'en emparent et savent faire avec pour faire vivre les mots et le goût de la poésie. Mais avant de rendre le micro, je voudrais juste dire un vers. Voilà, on va pas en, peut-être
on aura l'occasion d'entendre de la poésie. Je compte bien sur vous pour.
Mais j'ai eu envie quand même de dire aujourd'hui un vers extrait de ce petit bouquin que nous avons publié avec des poèmes de Abbas Kiarostami. Un petit coup de chapeau au grand iranien qu'il est, grand cinéaste iranien des années 70-80. Et on a fait un choix de ces formes brèves. Et on a demandé à une illustratrice iranienne qui vit à Téhéran de les illustrer. Elle était extrêmement émue de cette sollicitation. Elle a découvert le cinéma gamine dans les films de Kiarostami. Et je ne vais pas vouloir monopoliser la parole avec les vers de Kiarostami, mais juste le premier. Je me suis réveillé en sursaut. C'était le début du printemps, rien que ça.
Merci. Alors, pour nous donner un petit peu la température chez Rue du Monde, elle est plutôt bonne. Est-ce que tu pensais...
Si tu l'affirmes...
Est-ce que tu pensais, en débutant cette aventure, en publiant des anthologies avec des poètes du monde entier, en vendre...
C'est vrai que nous avons
40 000 exemplaires pour Tour de Terre en poésie, c'est quand même assez
incroyable. Nous avons eu la chance d'accumuler de très beaux succès, très très beaux succès, qui nous ont permis d'en faire d'autres et de poursuivre. Alors, on ne fait pas que de la poésie, mais tous nos succès cumulés ont permis de faire vivre la poésie sur toute cette durée. Et ce n'est pas facile aujourd'hui, avec une caractéristique quand même importante, c'est que nos livres sont toujours disponibles. Et ça, ce n'est pas rien. Pour l'instant, je rajoute. Pour l'instant. Va-t-on pouvoir tenir le coup ? C'est pas gagné. Et sans vouloir venir ici ouvrir les dossiers les plus noirs, je veux quand même dire que si la poésie du côté de la jeunesse a le vent en poupe, comme la poésie globalement, si effectivement le nombre de salons autour du livre jeunesse se multiplie, etc., ce n'est pas chose simple que de continuer de produire de beaux livres qui sont de beaux produits, solides, beaux papiers, cartonnés, etc., très coûteux aujourd'hui, de pouvoir les produire, les faire vivre dans la durée. Ça demeure un grand défi face, j'ai envie de dire, aux mastodontes de l'édition qui vont installer des piles de bouquins dans les librairies qui vont quand même faire beaucoup d'ombre, souvent, à nos petites productions discrètes. Donc, il y a de vrais grands dangers et vraiment, je m'en remets... Et à votre rôle de citoyen amoureux de livres, de l'enfance et de la lecture, vous avez beaucoup, beaucoup à dire et à faire pour que cela continue. Le chemin est quand même périlleux. Si vous voulez, on parlera d'économie, mais c'est intéressant aussi
oui.
de voir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas, où est-ce que ça coince et comment on pourrait faire mieux. C'est un enjeu de notre débat, peut-être.
Très bien, alors je passe la parole à David qui va nous dire aussi, ce qu'il pensait en envoyant ses premiers poèmes, textes, recueils à des éditeurs de poésie qui publient pour la jeunesse. Est-ce qu'il s'attendait à cette vie trépidante sur les routes à rencontrer les publics ?
Bonjour. Bon, en tout cas, c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas du tout écrire des poèmes qui seraient lus dans des soirées de poésie entre poètes où ils finissent même pas par vendre leurs livres, mais par se les échanger. Enfin, c'était... Quand je voyais ça, je me disais quelle misère.
Pas de quoi, du tout de quoi tu parles.
Je me disais mais quelle misère. Donc effectivement, j'avais plutôt envie de ressembler, je ne sais pas moi, à Robert Desnos. Enfin, il faut quand même bien s'identifier à des gens, ou à Jacques Prévert. Et effectivement, j'ai eu ce bonheur de ne faire que ça, c'est-à-dire faire des livres avec mes amis éditeurs, Chêne, Rue du Monde, Motus, voilà. Et donc, et d'en vivre, c'est ça. Et surtout, de ne pas rester à la maison, mais vraiment de beaucoup prendre le train pour aller voir les gens. Parfois dans les prisons, parfois, l'autre jour, j'étais à Forbach avec des enfants manouches. mais ça peut être aussi au fin fond de la Lozère, dans des villages, etc., d'aller voir le public, parce que d'abord, il y a une demande de culture hein, dans des endroits très reculés de France où ils n'ont pas forcément accès à la culture. Et puis surtout, de porter nos livres, parce que les gens ne savent pas que les livres existent autrement. Vous voyez, il n'y a pas toujours des librairies partout et beaucoup de librairies ferment. Donc moi, ma vie a été de me consacrer à ça, c'est-à-dire à la fois d'écrire, donc de faire les livres, et puis après d'avoir une stratégie du livre, c'est-à-dire de faire en sorte que le livre puisse toucher un maximum de personnes. Parce que faire un livre qui abscon, vous comprenez, où les gens ne comprennent pas, c'est terrible parce que les gens se sentent exclus, et puis derrière on ne vend pas. Et nous, on avait envie de vivre de ça, vous comprenez ? Voilà.
Et tu penses que c'est en t'adressant aux enfants que tu as trouvé une forme de sésame, une forme d'accès plus direct pour parler poésie, pour penser le monde.
Bien sûr, parce que en fait, moi je me souviens toujours quand j'étais enfant, on avait une pile de Tintin et Milou à la maison et c'était mon vieil oncle qui les lisait dans le canapé. Nous aussi on les lisait. On peut faire des livres qui sont des livres pour toute la famille. Et je le vois bien sur les salons. Souvent, ce sont les grands-parents qui achètent le livre. Ils vont le lire. Hein. Ils vont acheter un livre, par exemple, de Rue du Monde. Hein. Une seconde papillon, par exemple. Ils vont acheter ça. Et c'est tout le monde qui va le lire. Parce qu'en fait, et puis surtout, alors ce qui est important, c'est que ce sont des livres outils, c'est-à-dire que les livres de poésie sont beaucoup utilisés par les associations pour les animations. Tu vas parler d'animation, mais par exemple, lire et faire lire, ben, les gens qui sont dans lire et faire lire achètent beaucoup nos livres parce qu'ils les lisent après l'école ou pendant l'école, etc. Et comme ce sont des formes courtes, évidemment, ce sont des outils très très pratiques. On peut le sortir d'une malle, on lit un poème, on passe à autre chose, voilà.
Et alors, comme Alain, est-ce que tu pourrais dire que toi, tu t'adresses d'abord aux enfants ou à l'enfant
C'est le public que l'on vise.
Qui est en nous.
C'est le public que l'on vise, mais ce ne sont pas les enfants qui ont l'argent pour acheter. Donc, en fait, quand on vise les enfants, on vise aussi, je dirais, le prescripteur ou l'acheteur, comme on veut. Hein. Mais c'est quand même le public qu'on vise. Après, personnellement, moi, j'achète beaucoup de livres pour enfants. J'en ai encore acheté aujourd'hui parce que j'ai toujours aimé lire les livres jeunesse, mais parce que c'est mon métier aussi. Donc, je regarde ce qui se fait, quoi, bien sûr.
Alors, Elsa Palot, pour poursuivre l'œuvre de Martine Mélinette chez Chêne, qui a donc construit cette collection Poèmes pour grandir, est-ce que c'est en essayant de trouver de nouveaux duos poètes-illustrateurs pour faire naître la rencontre entre les textes et les images. Est-ce que c'est cette voie-là qui t'a guidée pour poursuivre l'aventure ?
Peut-être déjà, je peux dire un tout petit mot sur les débuts de la collection pour la replacer dans le temps. Donc la collection Poèmes pour grandir de Chêne Éditeur, elle a été créée en 85 par Martine Mélinette et Jean-Pierre Siméon. Et l'idée à l'époque, c'est qu'en fait dans le domaine de la poésie jeunesse, il y avait très peu de ce que nous on appelle un recueil de poésie jeunesse. Il y avait des anthologies, il y avait des textes de poésie adultes qu'on lisait aux enfants, mais il existait peu de choses dans la production éditoriale qui soit un auteur, une autrice, sur tout un livre, mais en poésie. Donc c'est de là qu'est né les poèmes pour grandir, enfin que sont nés les poèmes pour grandir. Et la particularité de la collection, c'est que donc elle est illustrée et à Chêne, on part toujours du texte, c'est-à-dire qu'on va recevoir des manuscrits, choisir un manuscrit pour la collection Poèmes pour grandir et y associer un artiste, une artiste. Pendant de longues années, c'était Martine Mélinette qui a fait les illustrations de la collection, puisqu'elle est elle-même artiste plasticienne. Et puis depuis moi j'ai repris la direction de la collection en 2017, mais déjà quelques années auparavant, la collection s'est ouverte sur d'autres artistes, d'autres illustrateurs et illustratrices. Et donc maintenant, à chaque fois qu'à Chêne on choisit un texte pour cette collection, on va aller solliciter une commande pour les images, pas pour les textes. Chêne, on passe jamais de commande pour les textes, mais pour les images, on va aller solliciter un artiste dont le travail nous plaît et nous semble pouvoir coïncider avec ce texte en lui proposant voilà, d'accompagner par l'image le travail d'un auteur ou d'une autrice. Et bah, c'est comme ça, par exemple, que je suis allée chercher Rascal pour le texte de l'année dernière de Simon Alonneau. Donc il y a ça, enfin voilà, il y a cette particularité-là dans la collection, et je crois qu'au fil du temps, enfin moi un peu la direction que j'ai envie de donner à cette collection-là, elle est triple. ça se dessine en fait tout au long de la vie de la collection, mais je trouve que ça prend cette direction-là. On a au sein de la collection Poèmes pour grandir à la fois des textes pour entrer en poésie. Voilà, vraiment découvrir la poésie, qu'on soit jeune lecteur, mais aussi adulte, en fait. Vraiment, cette collection, c'est une porte d'entrée dans la poésie, quel que soit l'âge, je dirais. Donc, par exemple, des textes pour entrer en poésie, bah, on a Le bestiaire des mots.
Et oui, j'ai oublié de le dire.
Voilà, c'est une nouvelle édition avec des nouvelles images. Voilà. Donc ça, voilà, un texte pour entrer en poésie. On a aussi, dans les poèmes pour grandir, des livres qui vont être des textes pour vraiment, sous forme un peu de petits fragments, pour interroger le monde. Donc là, je pense notamment au livre qu'a illustré Rascal, donc qui s'appelle « Je suis fort dans un domaine qui n'existe pas » de Simon Alonneau, avec des images de Rascal. Et puis, une troisième dimension de la collection qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est une dimension un peu sociale avec des textes comme le texte de David Dumortier, Médime et du rouge à lèvres, voilà, qui vont inviter les jeunes lecteurs à s'interroger sur le monde, la société autour d'eux, à travers, dans Médime et du rouge à lèvres, voilà, un petit garçon qui aime le rouge à lèvres, qui a envie de se travestir. Voilà. Et puis, on a d'autres textes, on a un super beau texte qui s'appelle Regard fauve de Tania Chéniaud, qui est sur le harcèlement scolaire. Voilà, des textes qui vont vraiment s'interroger sur le monde, interroger le monde, la société. Et donc, c'est ces trois aspects-là, je trouve, qui maintenant font cette collection Poèmes pour grandir.
Alors, comme la priorité est donnée au texte, comment on choisit un texte plutôt pour cette collection et pas pour les autres collections chaînes ? Qu'est-ce qui fait qu'elle va s'adresser plutôt à un public jeune ? Alors, évidemment, il y a ces trois thématiques. Est-ce qu'il y a aussi des indications dans la forme qui feraient que l'accès serait peut-être plus évident pour des enfants ?
Alors oui, de toute façon, c'est le travail d'éditeur. Alors, il y a une qualité d'écriture, bien sûr. Après, c'est quelque chose d'un peu subjectif, quand même, le travail d'éditeur. Donc, nous, on veut... Les textes qu'on a envie de publier à la chaîne, alors bien sûr, il va y avoir les sujets, de quoi ça parle, est-ce que ça rentre dans, par exemple, dans une idée de, bah voilà, de sujet de société qui nous intéresse, pourquoi pas. Une qualité de l'écriture, un travail sur la langue qui fait la poésie, mais pour cette collection-là, voilà, quelque chose d'une accessibilité qui nous semble plus grande, peut-être, et donc accessible pour les plus jeunes.
Dans des formes un peu narratives aussi, il y a des
choses qui sont très identifiées visuellement poésie, et puis des choses qui sont plus avec une trame narrative, mais avec une langue. Voilà, il y a toujours cette langue qui pour nous fait poésie.
Et avec des poètes ou auteurs qui a priori n'écrivent pas forcément pour la jeunesse.
Alors voilà, ça dépend. Ça dépend. Bah, par exemple, David, il a publié combien ? 5 ? 6 ? Ouais, mais 6 dans la collection jeunesse. Voilà. Et par exemple, je pense à un auteur de chaîne qui s'appelle Simon Martin, qui nous avait envoyé son manuscrit par la poste, pas du tout dans une idée de collection jeunesse. Et nous, ça nous a paru une évidence de faire ce premier livre de Simon Martin qui s'appelle « Dans ma maison », dans la collection « Poèmes pour grandir ». Mais lui ne s'y attendait pas forcément quand on lui a proposé. Donc, je crois que c'est aussi une subjectivité de l'éditeur.
Une certaine exigence, je crois que vous en publiez pas beaucoup, deux par an.
Voilà, un ou deux par an. Il y a eu, par exemple, en 2023, je crois, on n'a pas fait de nouveautés parce qu'on n'avait pas reçu de texte qui nous semblait qui nous semblait indispensable à exister dans notre catalogue. Donc on a, voilà. Et c'est vrai que du coup, peut-être pour les auteurs et les autrices, notre collection, elle est parfois peu difficile à définir. Et
à sortir de la niche.
Voilà. Non, mais on reçoit peu de manuscrits intéressants pour cette collection. Et comme on ne passe pas de commandes, voilà, des fois, on a des petites pénuries de textes, mais on préfère attendre les bons textes qu'on a envie de défendre. Mais là, ça va. On a des...
Ça y est, c'est on a 4-5 projets en 2050. Voilà. Ça va. Bon, bah, désolé. Donc, la température est comment chez Chêne, Poème pour grandir
Je
Clémente
crois
avec un petit nuage, comme chez du monde.
Bah, après, voilà. Donc, nous, Chêne, on fait que de la poésie, jeunesse et pas que. C'est avec des textes assez exigeant, donc alors on a quelques très beaux succès, il y a des livres beaucoup plus difficiles à vendre, à faire partager avec, avec le public, les lecteurs.
J'ai l'impression que c'est pas le cas pour la collection Poèmes pour grandir.
La collection Poèmes pour grandir, je pense, de par son ouverture à la fois pour le jeune public et pour le public adulte qui veut entrer en poésie sans avoir l'air d'être pris pour un enfant. Voilà. Rencontre un très beau succès, on est sur des premiers tirages entre 2000 et 3000 exemplaires, et il y a certains titres de la collection qui ont atteint 18 000 exemplaires, ce qui est beaucoup et ce qui est super. Et Chêne, on travaille beaucoup avec notre fonds. Donc tous les livres, la plupart des livres de la collection sont encore disponibles, et on continue de vendre. Bah, par exemple, je pense à Mehdi, qui est sorti en 2006, qu'on continue de vendre beaucoup chaque année, de présenter, de porter, etc. Donc voilà, il y a aussi un suivi dans le temps qui fait des longs sellers, on va dire, dans cette collection-là. Ouais.
Bravo. Et alors, Rascal, vous avez rencontré la poésie par le trait, par l'image. Comment on fait quand on reçoit un texte pour être dans ce compagnonnage comme une ponctuation? Elsa Palot disait que l'image était comme une ponctuation dans un texte. Qu'est-ce qui se produit chez vous pour illustrer de la poésie?
Déjà, dès le départ, moi je suis principalement auteur et parfois illustrateur, mais d'albums jeunesse. Même si mon écriture tend parfois à ne pas tout dire, donc se rapproche peut-être de la poésie. Mais là, c'était un désir de produire d'autres images, quoi. Et j'ai sollicité Elsa à un moment donné en disant que j'étais dans ce désir-là. Et puis elle m'a confié un texte qui avait déjà été illustré auparavant, qui
vous
s'appelait
pas
le... Si, si. C'est cet auteur qui malheureusement est atteint de glaucome ou je ne sais plus. Enfin bref, et donc il m'avait complimenté pour mes illustrations, mais en même temps il n'a pas pu les voir. Donc et c'était le poète de la méchante humeur, je crois. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, mais à chaque fois je lis ce texte et il ne faut pas que ça me plaise trop, quoi. Donc voilà. Bah, par exemple, le cas de Simon Leneau, je me dis, c'est quoi ce bazar, quoi? C'est pas...
n'importe quoi.
Bon, je n'irai pas jusque-là, mais qu'en même temps, alors je me suis dit, il faut remettre de l'ordre dans sa folie, quoi. Donc, et que je ne pouvais pas prendre ce chemin-là, quoi. Et donc, alors, c'est comme des vignettes de dictionnaire, comme ça, un peu genre gravure. Et là, le travail était principalement axé sur l'idée, quoi. Donc...
Oui, montrons.
Enfin, voilà.
Et oui, un texte qui est très surprenant, amusant, curieux. Et c'est l'étonnement qui est le déclencheur, l'agacement.
Enfin, de pouvoir dégager une idée, quoi. Donc, je ne sais plus, moi. Donc, enfin, lire une, tiens. C'était dans les premières, je crois. Et voilà. J'ai un jardin dans ma chambre pour pouvoir dormir dehors. Bon, ben voilà.
On montre l'image.
Oui, et donc l'image, c'est une feuille, mais qui est comme un lit, quoi. Donc, avec la fin, avec un petit oreiller, et voilà. Ou alors, je ne suis pas le genre de personne qui n'achète pas de tapis, puisqu'il y a déjà du sol. Donc là, ça résiste un peu. Hein, donc, et à un moment donné, bah, je peux en proposer d'autres. Et puis, Elsane me dit, bah, elle peut mieux faire. Et puis,
Ah oui, il y a une direction c'est vrai. Très...
Non, mais...
Moi, je croyais qu'au contraire, c'était beaucoup plus libre. Est-ce que par rapport aux bah... albums jeunesse que vous faites... sous des formes, enfin, qui oui. sont proposées sous forme narrative, avec soit des contes ou des histoires pour les enfants. Est-ce que vous n'avez pas plus de liberté de création?
C'est différent, parce que là, on est dans une continuité, on raconte quelque chose. Donc, si mon autre éditrice me dit bah, « cette image-là, elle ne fonctionne pas », bon, je réfléchis quand même avant de faire les choses, donc je ne vais pas passer, je sais pas, 2 jours sur une image pour me dire qu'elle ne convient pas. Tandis qu'ici, bah, c'est interchangeable, quoi. Donc, enfin voilà. Et au final, bah, je proposais d'autres choses et à un moment donné, on est tombé.
Alors Elsa, il y a beaucoup d'aller-retour.
Non, il n'y en a pas eu beaucoup,
non. Non, parce qu'il fait un travail super, Rascal. Mais c'est vrai, non, mais il y a eu 2-3 images où on en a rediscuté ensemble.
Où elle m'a même soufflé une idée que j'ai fait mienne, quoi. Et qui est celle, je sais plus ce qu'il raconte, quoi.
Au cimetière, j'ai barré le nom de quelqu'un que je connais parce que je pense qu'il n'est pas mort.
Voilà. Et j'avais proposé une autre image. Elle me dit, ce serait peut-être une belle idée que tu fasses, que tu dessines ta propre tombe, quoi. Bon. C'était difficile de résister. Donc, voilà.
Bah, c'est pour la touche personnelle, on va dire.
Oui. Et puis nous rappeler, parce qu'on vit tous comme si on était des immortels, donc qu'effectivement, notre propre vie aura une fin. Ben, voilà.
Alors, merci, Rascal. On reviendra sur aussi ce duo. Peintre, illustrateur et poète et l'importance que ça a en poésie jeunesse. Mais je voudrais interroger aussi Muriel sur la température des éditions Bruno Doucet et puis de cette double collection pour la jeunesse. Alors moi je trouve que tout est dit dans les deux mots qui sont accolés à poésie, idéal et histoire. Idéal peut-être pour proposer des réponses ou en tout cas des interrogations, enfin un chemin de réponse pour des adolescents qui se posent des questions existentielles comme tout le monde. Et puis poésie histoire pour aussi proposer peut-être un chemin comme si on a l'impression que tu avais envie de donner, de prendre l'enfant par la main avec la poésie pour lui raconter une histoire en poésie. Est-ce que j'ai tout compris?
10 sur 10, Emmanuel. De ces deux mots valises, effectivement, on dit beaucoup. Alors, poésie-histoire, c'est tout simplement parce qu'on considère que des poèmes mis bout à bout, ça peut raconter une ou des histoires. Donc on peut lire chaque poème de chaque recueil tout seul, mais si on les lit dans la continuité, ça raconte quelque chose de narratif. Et une des particularités de ce qu'on voulait faire avec cette collection, c'était d'avoir deux auteurs à part égale, un poète et un illustrateur et un artiste plasticien, et que le plasticien mette son petit film à l'intérieur du livre. Donc avec tout d'ailleurs cette question que mes camarades se posaient, c'est-à-dire comment justement, quelle place pour l'illustration par rapport aux poèmes qui ne sont pas là pour être des faire-valoir du poème. Et donc le projet, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait les deux bandes noires, c'est qu'il y a aussi l'histoire que l'illustrateur se fait à l'intérieur de l'histoire que le poète raconte aux enfants. Donc en fait il y a deux poésies-histoires, voilà, à l'intérieur.
Deux en un.
Ha ha ha. Bon, à côté, ça complice, ça complice. Donc voilà, il faut réussir les mariages. Et là, celui que je vous montrais, par exemple, c'était l'imaginaire de Nathalie Novi, qui est rentrée en relation avec le petit film que Bruno Doucet a fait avec La vie est belle. Et ils viennent un peu des mêmes paysages, des mêmes pays, et elle a parcouru le même endroit. Mais par exemple, ici, Le tournesol et la fleur du Rhum, ce sont des poèmes de Chaya Stoïka, qui était une petite fille rome qui s'est retrouvée à Auschwitz quand elle avait 10 ans, autrichienne. Et quand elle est sortie, ensuite, elle a été peintre aussi, mais ce ne sont pas ses peintures. Elle a écrit des poèmes pour raconter à la fois la vie des Roms et puis ce qu'était Auschwitz à tout le monde, aux adultes, aux enfants, à tout le monde. Et la graveuse Olivia Paroldi, qui a mis ces images à l'intérieur, eh bien, c'est une graveuse qui elle-même fait des ateliers avec les enfants roms, qui connaît bien et qui a fait entrer en résonance son travail avec les poèmes de Chaya. Donc, Poésie Histoire, c'est cette idée-là de se prendre chacun par la main, comme si on allait faire un bout de chemin ensemble. Voilà. Donc ça, c'était, je vous montre encore les très très beaux cyanotypes de Sophie Lécuyer, qui a mis son petit film à l'intérieur du Voyageur sans voyage de Pierre Sandors, parce que vraiment à chaque fois, vous avez des travaux.
Aussi immenses sont leurs ailes, qui a eu quand même le prix de la Bologna Ragazzi à la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne.
Oui, mais alors celui-là, c'est un hors-série de poésie histoire parce que c'est surtout qu'il a une autre histoire, c'est-à-dire que là, il se trouve que ce sont d'abord les illustrations, les portraits que Nathalie Novi faisait des enfants syriens dans la guerre. Et elle les faisait en disant « Enfants de nos guerres, enfants de Syrie, je ne t'oublie pas », avec ce fil rouge qui traverse les images, si vous voyez. Et donc là, moi, je lui ai demandé si je pouvais prendre ces images. Et j'ai écrit l'histoire, la poésie histoire de Halay Aïssam, un frère et une sœur syrien, avant la guerre, pendant la guerre et après, quand il faut partir. Donc là, c'était autre chose, c'est-à-dire c'était à partir des images que les poèmes sont nés. Et peut-être que, puisque tu parles de ce livre-là, de Immenses sont leurs ailes, ça peut donner une idée de aussi quel est le projet, au fond. Parce que la collection Poésie Histoire, sa baseline, avec ce vilain mot horrible, c'est quand la poésie prend les enfants au sérieux et quand c'est universel, comme on dit mes camarades, c'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde. Je vous en lis un, peut-être. Je vous montre l'image en même temps. Quand ils sont venus tout déchirer, la première fois, mon frère m'a dit... Tu ne savais pas, princesse, que les oreilles pouvaient pleurer ? La première fois, la première bombe, la première explosion, je m'en souviens même plus. Il y en a eu tellement depuis. Mais ce que je n'ai pas oublié, ce que je n'oublierai jamais, c'est le regard de Hala. Noir du puits, noir de la nuit, noir cri. Alors les étoiles, c'est fini ? Alors nous aussi, on peut mourir ? Alors nous, peut-être qu'on ne va pas vieillir ? J'ai posé mes mains coquillages sur les boutons d'oreilles de ma sœur, trop petite pour entendre la mer fracas qui déborde et dévaste nos deux mains. Après, ça continue l'histoire. Je ne comprends pas pourquoi. Après, il y a eu le silence, etc.
Voilà. Merci. Et ça nous amène aussi à cette collection plus d'anthologie pour les ados qui traite aussi de sujets graves. Parce que, évidemment, dans toutes vos collections et éditions, poésie jeunesse, on peut aborder tous les sujets en poésie jeunesse, dont des sujets graves.
Oui, poésie idéale, tu l'as dit, ça ce sont des anthologies avec des poètes contemporains, chants du métissage, guerre à la guerre, des voix pour la terre, voyez les sujets. Avec cette idée, poésie idéale, c'est quoi ? C'est les jeunes ont besoin de valeurs, ont besoin de choses auxquelles se rattacher, vivre la liberté, on voyait la liberté tout à l'heure. Et nous, là, les poètes, on n'est pas seulement là pour leur parler de petits oiseaux, de petites fleurs, de cuicuis, de cerises, ce dont personne ne parle ici. Mais c'est bien de faire comprendre aussi, on a quelque chose à faire bouger, non pas tant chez nous que dans la représentation qu'on se fait de qu'est-ce que la poésie pour la jeunesse. Et au fond, qu'est-ce qu'un enfant, de quoi un enfant a besoin ? Il a besoin d'une poésie qui l'aide à comprendre ce monde qui l'entoure, qui l'aide comme nous à faire le clair.
À grandir.
À grandir, bien sûr, mais aussi à réfléchir à l'intérieur de lui. Et donc, on ne va pas les mettre dans une bulle. Par exemple, le poème que je viens de lire, il est écrit pour au moment des enfants syriens, mais je n'ai pas besoin de faire
tristement
un dessin.
Tristement d'actualité.
Voilà. Et je crois que, en fait, c'est ce
qu'on essaye de faire, de faire bouger la représentation que le public souvent se fait de qu'est-ce qui est de la poésie pour les enfants. Ça, c'est pas pour les enfants. Ben, les enfants, ils ont besoin de la même chose que nous, d'une poésie qui les nourrit en profondeur.
Oui, et c'est aussi ton credo, Alain, et évidemment Elsa aussi, de traiter des sujets qui sont vraiment sous-tendus par des valeurs humanistes.
La poésie voilà. N'existe absolument pas en dehors du monde. Elle est complètement inclue dans le monde. Ce qu'on se raconte là me fait penser à une belle phrase toute simple, mais tellement vraie. Tant pour les poèmes qu'on partage avec les enfants qu'avec les adultes. C'est le grand poète argentin Juan Gelman qui disait « J'ai trois pays ». Là, il n'était pas question de poésie enfant ou adulte, hein, c'est le poète qui parle. « J'ai trois pays ». La vie, l'enfance et la langue. Je crois que c'est vraiment commun peut-être à nos démarches, oui. Hein, cette vérité première. On a cet esprit d'enfance souvent quand on travaille autour de la poésie, qu'on ne va pas résumer au jeu, mais qui inclut le jeu, la trouvaille, la recherche, la devinette parfois. Oui. Et puis la langue, cette fabrique magnifique de langue, qui est cet univers des poètes, et puis la vie au cœur de tout cela, donc tous les combats, toutes les douleurs qui sont là. Moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on a dit, en tirant un peu le sujet vers l'adolescence et ces multiples interrogations, c'est qu'à l'autre bout, nous avons, nous aussi, chez Rue du Monde, depuis longtemps, beaucoup travaillé pour les tout petits, oui. Avec notre collection un peu emblématique de notre travail qui s'appelle « Les petits géants ». Les petits géants, c'est simplement un petit format. Je ne les ai pas amenés là, ils sont sur l'espace jeunesse. Un tout petit format avec un poème d'un poète qui se déroule comme un album. Mais c'est simple, naturel,
et
il n'y a
oui,
même pas besoin d'écrire.
Lisons de la poésie au bébé.
Oui, tout à fait. Il n'y a même pas besoin d'écrire « c'est un poème » ou « attention poète ». C'est un petit album écrit par un grand nom de la poésie, qui a écrit d'abord un poème, un grand illustrateur qui l'illustre. On a eu une quarantaine de titres. Notre ambition était d'emblée de faire la première bibliothèque littéraire du tout petit enfant. J'étais, moi, il y a bien longtemps, et c'était comme ça que j'ai démarré dans la vie, enseignant en école maternelle. J'ai eu cette chance d'être un des trois premiers hommes à travailler en maternelle. Et je pense que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment grâce à ces 15 années que j'ai passées auprès de très jeunes enfants, qui, tant du point de vue de l'image, des arts plastiques, que de la sensibilité, de la disponibilité à la langue. Ils n'ont pas de blocage, ils ne sont pas coincés. Ils ne disent pas « ça, c'est trop compliqué, ça, on ne peut pas comprendre ». Ils aiment chercher. D'emblée, ils cherchent pour apprendre à parler. Ce sont des grands chercheurs, les gamins. Alors, ils sont habitués, si on leur dit une phrase qu'ils ne comprennent pas tout, c'est leur quotidien. C'est leur quotidien, ils sont moins déroutés que nous. Alors, on a réuni une quarantaine de titres avec des grands noms d'illustration, des grands noms de la poésie, y compris des Vian, des Prévert, des Desnos, des Queneau, etc. Et je pense que beaucoup, beaucoup d'enseignants, et l'autre jour j'étais avec des personnels de crèche, travaillent avec ces petits formats, ces petits livres, parce que, j'ai envie de dire, c'est une école de la poésie évidente pour les enfants, mais ça l'est tellement aussi pour ceux qui travaillent avec eux. Pour les papas, oui. Les mamans, les grands frères, et puis les personnels de crèche, etc. C'est la poésie partageable avec le tout-petit est vraiment une belle école de poésie pour tous. D'ailleurs, la plupart de ces textes n'ont pas du tout été écrits pour les enfants.
Hein. Tout à fait. Et nombre de poètes qui ont écrit pour les enfants écrivaient d'abord... voilà, dans des collections adultes. Mais il y a quand même quelque chose, d'ailleurs, que tu as perpétré et dont je me suis intéressée tout récemment. Ce sont les bestiaires. Alors, comment t'expliques que c'est vraiment quelque chose de très courant chez les poètes. Quand ils veulent s'adresser aux enfants, ils font leur bestiaire. Et j'ai hâte de découvrir le tien.
Le bestiaire des mots, qui est un peu spécial.
Illustré,
hein, mais peut-être que tu voudras en lire quelques-uns. Oh, bah, oui,
Je me suis aperçue que en écrivant ces bestiaires, il y a eu de nombreux poètes, évidemment, Desnos, Claude Roy, Pierre Menantou, il y en a vraiment eu beaucoup. Et à chaque fois, c'était souvent un prétexte pour jouer avec la langue. Vraiment, il y a beaucoup de cette découverte aussi de cette envie de jouer avec le langage.
Oui, ça s'y prête complètement. Hein. Les enfants sont fascinés par les animaux. Et puis, en même temps, aujourd'hui, j'ai envie de dire plus que jamais, le monde vivant inclut et l'humain et l'animal. Ils cohabitent. Et c'est bien qu'ils cohabitent aussi dans la langue des poètes. Hein. J'en lis deux, trois comme ça, juste pour me faire plaisir. Comme l'air serait plat si tu ne croyais, chenille, en tes projets. Pudique libellule, transparente jusqu'en son vol. Fourmi rouge, patte rouge, corps rouge, tête rouge, ton ombre te trahit. Et oui, on n'est pas toujours maître du monde. Le fruit brille, un ver invente l'utopie. Ah, sauterelle, il faut toujours que tu exagères. C'est un vrai bonheur que de travailler. Merci, c'est gentil.
Alors, on peut parler évidemment de tous les sujets. Et il y a aussi, quand même aussi, je trouve, en poésie jeunesse, beaucoup de fantaisie. Et j'ai envie de redonner un peu de valeur à ce mot, parce que je trouve qu'il en manque beaucoup dans ce monde. Et parfois, ça a pu être considéré ou mal pris, justement, comme quelque chose d'anecdotique ou de moins bien que la poésie adulte, qui serait peut-être plus sérieuse, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi, David. Et peut-être aussi, Rascal, est-ce que... l'humour, c'est vraiment propice aussi à illustrer et parler de poésie. Parce que je trouve que quand même, en poésie adulte, bon, là, je me permets une petite aparté, on n'en a pas beaucoup. Alors, si les poètes pour la jeunesse pouvaient donner des idées aux poètes adultes, ce serait réjouissant. Ben,
pour aller vite, il ne marche pas ce micro, vous ne m'entendez pas. Celui-là, il marche ? Non, ça ne marche pas ?
Alors, parle bien.
Allô ? Voilà. Alors, oui, comment dirais-je ? Ce qui est assez dramatique, c'est vrai, parfois, c'est qu'on a, en tout cas en poésie adulte, l'impression que le poète met sa propre émotion ou sa souffrance. Et c'est assez, pour ma part, assez... je ne vais pas dire de gros mots, mais c'est vraiment pas très agréable, quoi. Et je pense à Diderot... Qui parlait de ça dans le paradoxe du comédien, c'est qu'on n'a pas besoin des émotions de l'artiste ni de sa souffrance, il se la garde, vous comprenez ? Alors, en poésie jeunesse, on ne peut pas se permettre de mettre sa propre émotion ou sa souffrance, etc. On ne peut pas. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en scène soit des choses drôles, parce que l'humour, c'est déjà de la métaphore, ou alors de mettre en scène la souffrance de l'autre ou d'un personnage, vous comprenez ? Ce qui a été le cas, par exemple, dans Médime et du rouge à lèvres, voilà. Ça c'est important de voir la poésie jeunesse comme ne pas être centré sur soi en tant qu'artiste, mais sur l'autre. Et autrement, ça passe pas, voilà. Et moi, je peux en lire un aussi, là, vite fait, là, quelque
bien
chose
sûr,
de drôle.
Bien sûr, une petite alors, devinette.
Quand Alain Serre parlait des textes... Pour les maternelles, alors c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est de baisser de niveau. Alors là, ça y est, moi je suis à peu près, on peut le dire, ça y est, je suis en grande section de maternelle. Mais il faut que je... il faut que je descende encore.
Les bébés.
Il faut que je descende, ça y est, là, je suis en train de travailler dessus pour être en première section de maternelle. Et c'est pas facile du tout. Alors pour écrire pour les bébés, là, j'ai pas le niveau encore. Je vous le dis franchement, j'ai pas encore le niveau. Mais là, ça y est, là, je suis en grande section de maternelle. Alors, je vous en lis un vite fait quand même. Moitié humain, moitié chose. Le bonnet. Alors, il faudrait le lire avec le doigt, là. Prenez votre doigt. Le bonnet a un nez, le fauteuil a un œil, le couteau a un cou, la syllabe a un... Cils, bravo, ça y est. Le papier a un... Pied. Le papier a un pied, mais ils ne suivent pas. Le bijou a une... Ça y est, il y en a qui suivent. Et le chemin a une main quand tu ramasses un petit caillou. Voilà. Il y a quand même une condition. Voilà, voilà. Oui, donc l'humour, bien sûr, l'humour, c'est les grands, l'ingrédient. C'est comme la farine dans un bon gâteau. Hein, c'est un peu l'ingrédient essentiel quand même. En poésie jeunesse, c'est important. On l'a vu avec Alain. Voilà.
Et est-ce que ce n'est pas une manière aussi de retrouver l'étonnement de l'apprentissage de la langue? Puisque on le sait bien, quand les enfants commencent à parler, ils font des lapsus ou ils posent des questions complètement incongrues qui font souvent poésie.
Ah ben oui, ça c'est... Les professeurs devraient, surtout en maternelle, devraient prendre des notes de tout ce qu'ils entendent toute la journée parce qu'ils sont un peu comme les clowns. C'est ça qui est intéressant. Le clown est au-dessus du poète, il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'ils essaient, puis ils ratent. Puis quand ils font exprès de rater, ils réussissent. Vous voyez, c'est un peu ça le clown, c'est toujours l'oxymore un peu. Voilà.
Et Rascal, est-ce que comment on illustre aussi l'humour qu'il y a beaucoup dans ces aphorismes, dans ces réflexions de Simon Alonneau?
Oui, ben là, ça fonctionne ou pas? Oui. Oui, ben là, c'est un cas un peu particulier. Je l'évoquais tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter, mais qu'effectivement, je sentais qu'il fallait mettre de l'ordre, quoi, donc reponctuer ce qui est raconté, quoi, donc, ou rigidifier légèrement. Oui. Et ça s'est plutôt axé sur du dessin d'idées, quoi, comme c'est fait, on s'en fout un peu. Quoi, donc,
oui, il faut casser les codes de la poésie scolaire, comme disait Elsa dans l'article de Livre Hebdo. J'ai l'impression que vous étiez plutôt le cancre de Jacques Prévert.
Quand j'étais enfant?
Oui.
Moi, j'ai fui l'école comme on fuit une maison en feu. Moi, je n'aimais pas ça du tout. Donc, c'est pas... Moi, j'ai arrêté l'école, j'avais 15 ans, donc c'est pas...
Donc le trait, le dessin, c'est une forme aussi de liberté aussi qu'on retrouve beaucoup dans la poésie.
Oh, moi je rêvais d'être promeneur, mais ça gagnait pas assez, quoi. Donc c'est pas. Non, moi je voulais rien foutre, quoi. Donc voilà. Je peux le dire maintenant que je suis à la retraite, là. Donc voilà. Mais oui, enfin je voulais m'amuser, quoi. Enfin voilà.
Mais oui, mais s'amuser en poésie, c'est vraiment important pour les enfants aussi.
Oui, même au-delà de ça. Hein, donc, moi, c'est ce que je préfère, c'est rire dans la vie. Mais l'humour, moi, j'avais écrit quelques pensées, mais chez un éditeur qui n'existe plus, qui s'appelle Les Dunes. Et c'était, excusez du peu, les pensées de Rascal. Et j'en avais fait un second qui s'appelle Petit
Avec
Val,
un peu d'humour, j'imagine.
Qui s'appelle Rage dedans, oui. Mais donc, et pour le premier, j'avais confié les illustrations à Pascal Lemaître. Voilà. Et bon, je me souviens plus trop, mais par exemple, une phrase comme ça, je m'en souviens parce que quand je l'avais donnée à mon éditrice d'album, elle m'avait dit c'est. La phrase que je préfère de tout ton bouquin, quoi, parce que c'est celle qui te ressemble le plus, et c'était « Enfant, je désirais entrer dans le désordre ». Quoi. Et comment on illustre ça, quoi. Donc, voilà. Et de les avoir écrits, je me voyais mal... je voulais un regard neuf, quoi. Enfin, voilà. Et qui soit... du dessin intelligent, comme le maître peut le faire, quoi. Enfin, voilà. Ouais.
Oui, alors un petit peu de fantaisie de Muriel ou Elsa.
Je voulais juste dire quelque chose par rapport au travail de Rascal sur l'humour. Je ne l'ai pas pris, mais on l'a sur le stand de chaîne. On a fait aussi avec Rascal un journal parodique de Matin Brun, de Franck Pavlov, qui est une petite nouvelle, qui est
un petit peu connue.
Voilà, le best-seller de chaîne. Et quand on a atteint les 2 millions d'exemplaires vendus du livre, on a voulu faire un journal parodique qui s'appelle Les Nouvelles Brunes. Donc, c'est Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Matin Brun, dans l'histoire, les personnages lisent le journal de l'État brun qui s'appelle Les Nouvelles Brunes, donc qui est vraiment le journal d'une dictature en puissance. Et on a fait un format journal. Et j'ai sollicité Rascal pour illustrer ce journal. Et alors, faudrait, je ne l'ai pas pris, ce n'est pas très malin, mais voilà. Et peut-être que tu peux en dire un mot. Il y a un horoscope brun, il y a une petite BD, il y a Radio Brune. Voilà, il a vraiment exploité à fond cette thématique de la parodie, de l'humour, pour dénoncer, du coup. Enfin, voilà.
Oui, elle a tout dit. Hein.
Pardon, je parle trop.
Je me suis mis en mode économique. Non, je déconne. Mais c'est pas. Oui, moi, c'était plaisant à faire, quoi. Donc, c'était trouver des typos. Comme j'avais un de mes premiers métiers, après avoir renoncé à la peinture, c'était. J'ai été affichiste, quoi. Donc. Et tout ça m'a servi pour ce travail-là, parce qu'il fallait faire des vignettes avec des titres, et en même temps que toutes ces typos sont quand même un peu surannées, comme ça. Non, c'était très chouette à faire. Alors, j'ai même conçu un strip avec des personnages. J'avais numéroté 180, comme si on avait eu pléthore. Avant, donc, avec un chat, un chien, je ne sais plus trop ce que ça racontait, mais enfin, bon, ça... C'est Bruno et Bruna, voilà. J'avais pas été très loin. Non, mais c'était chouette à faire, quoi. Mais malheureusement, le Covid a débarqué, et puis,
La température a baissé d'un coup, là.
Oui. Donc, ça... C'était un peu morné, quoi. Enfin, voilà.
Oui, alors, ayons encore un petit exemple de fantaisie qui, vraiment, je l'espère aussi, pourrait irriguer aussi toute la poésie. Parce que ce que j'aime, moi, en tout cas, à lire les poètes qui écrivent pour la jeunesse, c'est que dans cet humour, il n'y a pas de choses trop pascons ou trop cyniques. Et voilà, il y a aussi cette fraîcheur aussi qu'on retrouve comme un enfant qui découvre la langue et ses jeux de langage. Alors, tu veux nous...
Non, mais c'est parce que justement, comme tu as fait cette remarque, je me disais, dans la collection Poésie Histoire, on a la grande poétesse libanaise Vénus Corrigata, avec un recueil qui s'appelle Lune n'est lune que pour le chat,
charmant, ouais.
Avec des images magnifiques de le petit film de Sibylle Delacroix. Et Vénus, quand elle écrit pour les adultes, par exemple, on vient de publier un livre qui s'appelle qui parle au nom du jasmin, qui n'est pas pour les enfants, qui est bourré de fantaisie. Et là, pour les enfants, ça donne la lune qui a glissé du ciel, tombe dans le caniveau. Le coiffeur rase ses rayons, les chiens mordillent ses oreilles. Enfournée par la boulangère, elle se transforme en croissant. Mangée par un enfant, elle disparaît du ciel. Tu es dans la fantaisie à chaque page. Voilà.
Bravo. Tout est possible en poésie. C'est ça qui est formidable. Je voulais aussi aborder avec vous la question du public. Parce que cette édition jeunesse, elle ne se porterait pas aussi bien si elle n'était pas portée par tout un maillage vraiment de personnes qui travaillent pour l'action culturelle, que ce soit les professeurs, les bibliothécaires. Vraiment, je rends vraiment hommage à tout ce réseau de lecture publique qui vraiment a des rayons de poésie jeunesse très, très fournis. Et toutes ces rencontres qui sont provoquées aussi dans des festivals dans des rencontres en classe. Alors, David, tu es sur les routes tous les jours.
Même pour parfois l'été, à cause de toi, il faut qu'on aille dans les colonies de vacances.
Oui. Je l'envoie en résidence en colonie.
On l'envoie dans les colonies de vacances.
Non, c'est du travail. Alors, qu'est-ce qui fait que... est-ce que ces rencontres nécessaires avec le public, Alain aussi, tu le rencontres souvent, Elsa, plus sous la forme de la fabrication aussi de vos ouvrages. Est-ce que c'est, cette rencontre, elle est vraiment nécessaire pour faire vivre le livre de poésie? Bon, c'est un peu, j'ai un peu la réponse dans ma question, mais je pense que vous allez aller plus loin dans réponse.
On va aller plus loin. En fait, pourquoi on le fait? Un jour, j'avais une éditrice qui m'avait dit, nous, on est des vendeurs d'armes, des marchands d'armes. Et je pense à un titre de Kateb Yassine qui disait « Le poète comme un boxeur ». C'est un des plus beaux titres que j'ai pu voir sur la poésie, « Le poète comme un boxeur ». Et c'est vrai que faire amener les enfants à lire de la poésie, le théâtre et la philosophie, c'est vraiment leur donner des armes pour l'avenir, parce qu'ils auront sérieusement besoin de se défendre. Et comme, heureusement, on ne se défend pas avec des poings ou avec des pistolets, il faut bien se défendre avec quelque chose, et en général c'est quand même avec une langue, et plus la langue est nourrie et riche, et plus on est dans la pensée, plus on est pertinent, enfin plus on se défend et plus on sait faire une lettre commandée par exemple, hein, voilà, ce qu'on n'apprend pas dans les écoles, et c'est bien dommage. Et en fait la poésie, moi je le vois, c'est du droit. Le poète joue avec le droit, il joue avec la langue et il joue avec les lois de la langue, d'accord. Voilà, si par exemple je dis, je ne sais pas, je mange une pomme avec une fille sucrée, j'ai déjà fait un petit traficage, puisque ce n'était pas la fille qui était sucrée, c'était la pomme, mais voilà, on a fait un petit déménagement, voyez-vous. Donc en fait, on est des trafiquants un peu, hein, des trafiquants de langue, la nuit, on fait ça la nuit, hein, on trafique la langue la nuit, et les enfants comprennent très bien, et ils remettent les choses à leur place parfois. Et c'est comme ça qu'on leur passe la langue et qu'on leur donne. Et ils en auront vraiment, vraiment besoin. Ce sont des outils. On parlait le livre est un outil, on le disait avec Alain tout à l'heure. Mais c'est aussi, c'est surtout la langue qui est un outil. Moi, en tout cas, ça l'a été. Hein. On sort quelqu'un de prison avec la langue.
Hein. Alors, pour le dire autrement, est-ce que ce n'est pas la récréation tellement attendue, la poésie en classe?
Bah, j'espère, en tout cas moi ça l'était, mais c'est pas seul, parce que en fait, eh ben, tant mieux, parce que c'est en récréation qu'on apprend le plus.
Alain?
Ah oui.
Moi j'ai envie de dire que les enfants réussissent à percevoir la sphère poétique à la fois comme un travail, un chantier, et comme quelque chose qui est en dehors complètement du monde scolaire. Et force est de constater, et nous l'avons tous fait, j'imagine, combien les enfants qui sont les moins efficaces du point de vue des résultats scolaires, qui maîtrisent le moins la syntaxe, toutes les règles de la langue, sont le plus à même, et parfois les premiers de la classe sont très coincés pour le coup, sont les plus à même de recevoir à 100% en plein cœur, en pleine tête, ce que dit un poète, parfois avec juste deux mots. Et ils jubilent quand ils s'aperçoivent que le poète a eu le droit, par exemple, de faire des répétitions et à n'en plus finir.
Même de faire des fautes.
Oui, il fait des répétitions alors que, sans que quelqu'un lui mette dans la marge, répète.
Souligné en rouge. Non, l'auteur n'a pas voulu dire ça.
Voilà. Et donc, ils découvrent que cette langue qui était normative, qui les évaluait, qui les calibrait, qui les classait, c'est en fait aussi une langue de la réinvention de soi, la réinvention des règles, comme tu disais. Hein. Et quand je vois, par exemple, avec ce Merci au loup de Sibérie, qu'on vient de publier avec Alban Gelé, qui sera là tout à l'heure, d'ailleurs... voilà, quand on lit un petit peu, il y a des merci à n'en plus finir. Et effectivement, les enfants s'étonnent en disant, mais il y a peut-être trop de merci. Mais non, parce que c'est la vague, le roulis du texte. Hein, c'est la musique, c'est la noria qui tourne dans les pages. Merci à la grande muraille de Chine de ressembler à un dos de dinosaure. Merci à la tortue géante des Galapagos, aux musiciens de Brême, aux raisins de Corinthe, à l'orme du Caucase, aux cerisiers de Mandchourie. Merci à la bête du Gévaudan, aux cèdres du Liban, aux dauphins d'Australie. Merci aux auberges espagnoles de nous accueillir, toi, elle, lui, eux et moi aussi. Merci aux téléphones arabes de faire passer les éclats de rire par les oreilles. Merci aux renards arctiques, aux ours polaires, aux voyageurs de l'Orient Express, etc. etc. Voilà. Et là, on est dans un poème, on est Dans un rap, on est dans quoi ? Les murs de la classe peuvent tomber. Et les enseignants qui savent faire, parce qu'il faut bien le dire aussi, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir faire avec ces outils-là, qui sont quelque part des non-outils. Les enseignants qui savent faire, ils savent faire pousser ces graines-là. Et alors, les enfants peuvent aller vers des productions poétiques, vers des... Moi, je les invite souvent à faire, s'il y a des enseignants ou des bibliothécaires dans notre public, je vous y invite, à essayer de constituer des anthologies avec les enfants. Leur mettre 300 poèmes dans une boîte et leur dire, voilà, ce groupe, vous allez travailler, faire les poèmes que vous avez envie de dire à votre chat. Là, ceux-là, vous allez travailler les poèmes pour un roi qui est mort. Vous, les poèmes pour une fleur. Et ils vont chercher chacun 4, 5, 6 poèmes. Ils vont se mettre dans la posture de pourquoi je mets ces textes ensemble, lesquels j'ai envie de mettre, lesquels j'aime. Et c'est un travail de production aussi. Il n'y a pas que la production de textes poétiques, il y a aussi le fait de relier des textes ensemble qui me paraît extrêmement intéressante. Voilà, mais il faut m'arrêter.
Oui, je crois qu'on doit s'arrêter dans cinq petites minutes. Mais justement, pour conclure, peut-être nous donner le degré de température par rapport justement à ces prescripteurs que sont les professeurs, les bibliothécaires et tous ceux qui œuvrent justement pour la poésie action jeunesse, on va dire. Je crois qu'il y a quand même eu beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été faits. Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens et que ou alors il faut... Enfin, c'est le moment des revendications, là. Allez-y. Hein.
Mais puisque tu nous pousses...
Allons-y.
On va quand même tous dire, je crois, qu'on ne peut pas se taire devant un affaiblissement des mises de fonds, des gestes de confiance en euros de la puissance publique dans le domaine de la culture. Il se passe des choses extrêmement inquiétantes, certes qui se retrouvent sur des lignes de budget, mais qui se retrouvent aussi de manière plus complexe et plus dissimulée dans des manques de formation gravissimes. Qui forme aujourd'hui pour la poésie dans toutes les formations offertes aux enseignants ? Quasiment personne, à part un passionné ici ou là. Quelle est la formation autour de la lecture de l'image, autour de la littérature jeunesse, du côté des bibliothécaires, du côté des enseignants de l'école primaire et maternelle. Donc il y a là, je trouve, un point extrêmement grave qu'il ne faut cesser de soulever. Si on ne plante pas ces graines, si on ne les arrose pas, elles vont mourir. Et qui va acheter nos livres si des générations de gamins ne sont pas initiés, ouverts à la poésie ? Qui va faire vivre les poètes et les éditeurs de poésie ? Donc il y a là un enjeu extrêmement important. Oui, la poésie est impertinente. Oui, elle dérange. Oui, elle crée des solidarités. Oui, elle pose des problèmes. Mais c'est justement pour tout cela que les pouvoirs publics doivent complètement miser sur elle.
Complètement.
Oui, et pour compléter ce que tu dis, Alain, aussi, pendant des années, là, on a eu des enseignants qui invitaient des poètes dans les classes. Et il y a eu un travail formidable fait par tous ceux qui, justement, eux, étaient déjà formés ou en tout cas avaient bien compris la force et ça. Mais aujourd'hui, sans passe culture, ils font comment pour les recevoir dans leurs classes ? Donc si les poètes vont déserter les écoles, je crois que c'est grave aussi.
Oui, oui. Elsa.
Vous m'entendez ? Ah oui. Je rejoins ce qu'ont dit mes collègues éditeurs et éditrices. Moi, ça doit faire 13 ans que je suis à Chaîne. J'ai senti d'abord plutôt quelque chose de plus ouvert avec justement plus d'interventions des poètes et dans les classes, plus de, voilà, avec des dispositifs, jeunes en librairie, le pass culture, etc. Ce qui offrait des perspectives plutôt agréables pour faire découvrir la poésie à tous et à toutes. Et puis là, on redescend vers quelque chose où comment ça va se passer puisqu'il n'y a plus les budgets pour, quoi. Et moi, j'ajoute quelque chose par rapport au... Enfin, j'ai pas rebondi tout à l'heure sur ce que tu disais, mais par rapport à faire découvrir la poésie. Nous, on fait aussi beaucoup à Chaîne, comme on est aussi imprimeur, tu en as dit juste un mot, mais on reçoit beaucoup de scolaires dans notre atelier en Ardèche, où on montre la fabrication des livres et on lit et aussi des textes, on explique ce que c'est le métier d'éditeur et on lit des textes. Et c'est aussi cette dimension du coup de l'impression nous permet aussi d'aller chercher un autre lectorat qui va s'intéresser d'abord aux machines, puis découvrir qu'en fait la poésie c'est sympa aussi.
Être plus proche de la création. Bon, David, tu vas continuer à repartir sur les routes.
Oui. Comment dirais-je ? Non, mais pour terminer sur une note positive, bon, bien
oui,
sûr.
Oui, parce que la température est bonne, pouvoirs, il faut la maintenir bonne.
Les pouvoirs publics sont de plus en plus absents de tout, de toute façon, pas seulement autour de la poésie, on ne les voit plus. Qu'importe, moi je pense que quand même le public est là, on le voit aujourd'hui, les gens sont là, il y a quand même une résistance et les gens quand même vont dans les librairies, enfin il y a encore, je dirais la fleur n'est pas fanée encore, hein, pas du tout, elle est encore bien vivante, et voilà. Et puis quand une fane, une autre pousse, ça va aller.
Oui, ouais. Nous allons conclure sur cette belle phrase, la poésie jeunesse est terriblement vivante, merci à vous.
Alors, merci à vous. Je vous rappelle que donc, ce pavillon Poésie Action Jeunesse est le long de la rue Bonaparte, juste en face de la librairie La Procure, à 50 mètres à pied d'ici. Par ailleurs, Alain Serre va présenter les éditions Rue du Monde à 17h ce jour dans ce pavillon. Il y a bien entendu d'autres éditeurs, comme les éditions Bruno Doucet, qui sont au stand 118-120. Chaîne éditeur qui est en 405, mais voilà, vous, tous ces gens, vous allez pouvoir les retrouver et sur le marché. Et dans les programmes que vous avez à votre disposition, vous avez à la fois tout le programme de ce qui va se passer dans le pavillon Poésie Action Jeunesse. Ce programme est également sur le journal qui est celui, le supplément, où il y a toute la liste des éditeurs avec les plans. Donc vous retrouverez tout ça. Et par ailleurs, tout à l'heure, à 18h, David Dumortier et Alban Gelé seront en lecture. 18h30, pardon. Seront en lecture ici sur la scène, voilà. Dans le cadre de cette opération Poésie Action Jeunesse. Merci Emmanuel, merci à tous. Et à tout à l'heure. Le temps de remettre un petit peu d'ordre sur la scène. Pendant ce temps, il va y avoir la fanfare verbale des Turbulents qui va parader dans le marché pour faire l'inauguration.